Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Comment s'opèrent les transmissions culturelles ? Par où est passée cette culture grecque qui appartient à notre tradition européenne ? Que devons-nous aux uns et aux autres dans cette transmission ? Toutes ces questions sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui que nous sommes de plus en plus détachés de notre héritage, critiques vis-à-vis de lui et dans une certaine forme de crise de foi à l'égard du futur. Nous, Européens, sommes en quelque sorte des héritiers sans en avoir conscience, des transmetteurs sans tradition, des pédagogues sans désir de transmission. Il importe donc de prendre du recul face à cette question de la transmission, de faire un petit détour et de mieux mesurer à la fois le chemin long, difficile et parfois tragique de cette transmission en Europe et, deuxièmement, ce que nous devons à l'égard de cette dite transmission. Rémi Braque, bonjour.
Bonjour.
Nous vous demandons et nous avons demandé effectivement de venir, ce que vous avez accepté, pour nous apporter vos lumières. On a déjà eu la chance de vous recevoir ici. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie médiévale à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, professeur de philosophie des religions à l'Université de Munich et l'auteur, entre autres choses, du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres, 2008, désormais en poche, Au moyen du Moyen-Âge 2006, désormais en poche aussi, et l'Europe, la voie romaine, en poche aussi. J'ajoute que vous êtes religieusement trilingue, christianisme, judaïsme et religion musulmane, que vous êtes polyglotte et polyglotte culturel. Alors, première question pour bien resituer notre question d'aujourd'hui, donc celle de la transmission culturelle en Europe. Est-ce important ? Et pourquoi serait-ce important de se sentir héritier, d'avoir une dette à l'égard du passé, de reconnaître ce que nous devons ou ne devons pas aux Grecs et aux Romains? Après tout, on peut considérer, avec le sociologue Ulrich Beck, que l'Europe serait devenue une vacuité substantielle, d'une part, et d'autre part, une ouverture radicale. Et que cette table rase de l'héritage nous permettrait sans doute de mieux nous ouvrir avec bienveillance au regard que nous posons vis-à-vis des autres cultures. Alors pourquoi considérez-vous que c'est une chose importante, si ça l'est pour vous, de se sentir héritier ?
Je commencerai, si vous le voulez, par reprendre ces idées de Ulrich Beck, qui se trouve être mon collègue à l'Université de Munich, même si, de façon tout à fait indépendante de ma volonté, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un grand personnage, il est toujours un peu par monts et par veaux, donc il n'est pas facile de le prendre par un bouton du gilet et de lui demander de prendre un verre avec soi. Donc, cette idée d'une vacuité de l'Europe est quelque chose que je suis tout à fait prêt à accepter, à condition de comprendre que le vide aspire. Et que c'est peut-être justement parce qu'elle a, à plusieurs moments au cours de son histoire culturelle, éprouvé le sentiment de cette vacuité intérieure, que l'Europe a été capable d'aspirer à elle ce qui se trouvait en amont d'elle-même, en tout cas en dehors d'elle-même, et d'en faire son miel. Je me séparerai en revanche de ce que je crois avoir compris de la façon dont vous résumez sa pensée, en faisant remarquer que, historiquement parlant, le premier rapport, enfin la première aspiration de l'Europe, à savoir l'aspiration à se remplir d'une antiquité gréco-latine qu'elle avait l'impression d'avoir abandonnée, impression juste ou fausse, la question n'a pas à nous intéresser ici. En tout cas, l'Europe a su désirer et s'approprier, dans la mesure de ce qui était disponible sur le marché, si je puis dire, des denrées culturelles disponibles à l'époque, elle a su se nourrir de l'antiquité grecque et latine. Mais ça ne l'a nullement empêché de se tourner vers d'autres sources, antérieures ou contemporaines, et de leur faire subir la même douce violence, la violence de l'appropriation, que ce qu'elle avait mis en œuvre à propos du grec et du latin. Historiquement parlant, lorsque l'on regarde la genèse de l'orientalisme occidental, terme qui pour moi est laudatif, contrairement à ce que certains voudraient nous le faire croire, qui n'ont d'ailleurs jamais étudié les choses sérieusement, la source principale de l'orientalisme européen n'est nullement la colonisation, mais le souci de mieux comprendre sa propre tradition, non plus du côté grec, mais du côté, disons, de Jérusalem, non plus à Athènes, mais à Jérusalem. En d'autres termes, si les érudits européens, à partir du XVIe siècle, donc quand même quelques siècles avant la colonisation, se sont mis à étudier l'arabe et le persan, puis d'autres langues, c'était pour mieux comprendre la Bible. Un arabisant européen, c'est avant tout un hébraïsant curieux. Un hébraïsant qui veut mieux comprendre ce que sont, eh bien, ces langues qui sont liées par des liens de parenté assez évidents. Qu'est-ce que c'est qu'un indianiste ? Réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un iranisant ? En gros, c'est un helléniste curieux. C'est quelqu'un qui a voulu mieux comprendre, eh bien, ces langues qui ressemblent au grec, ce que l'on appelle les langues dites, enfin, les langues indo-européennes, et qui a voulu éventuellement comprendre de plus près ce qu'Hérodote raconte sur la Perse, ce que d'autres auteurs racontent sur l'Inde, etc. Donc il y a, je crois, au départ, une curiosité intellectuelle qui n'a nullement été satisfaite par le rapport à nos propres ancêtres culturels réel ou supposé. Cet héritage dont vous avez parlé est très souvent le résultat d'une captation. Nos ancêtres véritables étaient plutôt des grands barbus qui vivaient dans des forêts germaines ou du côté de la Volga, plutôt que des Grecs. Alors ces Grecs, nous les avons adoptés, si je puis dire.
Alors par rapport donc à ce constat donc d'Ulrich Beck, vous êtes, vous, d'accord sur le constat, donc cette vacuité substantielle. Vous dites donc à l'instant qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a appropriation d'une tradition culturelle que pour autant il n'y a pas ouverture aux autres cultures, et l'histoire européenne est là pour le démontrer. Mais revenons une seconde sur cette question du vide. Donc vous dites effectivement, s'il y a vide, la nature comme la culture ayant horreur du vide, quelque chose va être aspiré. Donc vous dites, il faut choisir entre ce vide aspirant d'autres choses peut-être extrêmement dangereux, et l'histoire est peut-être là pour nous le dire, et le choix, la revendication, la nécessité peut-être d'affirmer un héritage culturel. C'est ça le choix qui s'offre entre un héritage assumé et un vide qui pourrait aspirer des idéologies, des conceptions dangereuses, nocives.
Les deux se conditionnent mutuellement. Je crois qu'il faut un désir. On explique un peu trop souvent l'histoire culturelle par le concept d'influence, qui est avant tout un concept hydraulique, n'est-ce pas ? Quelque chose de fluo, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui coule. Bon, alors on suppose qu'il y aurait une sorte de château d'eau culturel quelque part, et puis des éviers avec des robinets, et que tout cela coulerait naturellement, coulerait de source, si j'ose dire. En réalité, il faut déjà avoir soif avant de songer à ouvrir le robinet. Et c'est cela qui, bien souvent, doit être expliqué. On voudrait nous faire croire, par exemple, que, eh bien, il y aurait des cultures supérieures, dont l'Europe, des cultures plus avancées, dont l'Europe, à certains moments, aurait éprouvé la supériorité, et donc elle serait allée y chercher. Très bien. Mais pour pouvoir éprouver la supériorité d'une autre culture et ne pas la considérer comme peut-être trop raffinée, comme décadente ou simplement comme inutile, puisque tout se trouverait déjà en soi, eh bien il faut ce désir, il faut cette faim, il faut ce sentiment de creux à l'estomac qui fait que l'on va aller chercher ce qu'il faut. Donc l'héritage, c'est très bien, mais à condition de ne pas le comprendre à partir de la notion d'héritier telle qu'elle a été opposée, par exemple par Charles Maurras, à la notion de boursier. Maurras, lui, privilégiait l'héritier sur le boursier, en faisant remarquer, ce qui d'ailleurs est d'un grand bon sens, que lorsque l'on a hérité du métier de son père, qu'on a toujours vu faire ce qu'il faisait, on a des chances d'exceller plus grandes que si l'on est obligé d'apprendre sur le tas. Certes, mais l'héritier, en toute hypothèse, est quelqu'un qui doit s'approprier ce qu'il reçoit. Je vais vous faire grâce de la citation de Goethe que les Allemands vous servent toujours dans ce cas. C'est dans le Faust, ce que tu as hérité de tes ancêtres, acquiers-le afin de le posséder. Bon, je laisserai l'allemand de côté, mais c'est d'une vérité, comment dire, évidente. L'héritage n'est pas quelque chose que l'on reçoive comme ça, qu'il suffirait d'ouvrir le bec pour recevoir la béquée. Non, il faut aller le chercher, il faut se l'approprier au prix d'un travail.
Et donc ce que vous dites, c'est que ce travail, donc cette soif, ce désir, cette faim,
oui,
est effectivement quelque chose qui est devenu, pour le dire simplement, problématique.
Oui.
Qui ne coule plus de source. Voilà.
J'ai l'impression parfois, bon, je ne suis pas du tout un observateur armé, disons, enfin, armé des instruments d'optique nécessaires, je ne suis pas du tout un observateur des sociétés contemporaines. Enfin, j'y vis, bon, parce que je ne vois pas trop où je pourrais vivre ailleurs que dans le présent, mais j'ai l'impression, j'ai trop souvent l'impression, peut-être est-ce dû à un tempérament un peu morose, je ne sais pas, que les Européens ont en ce moment une certaine tendance à se croire très malins et à croire que le reste du monde n'a plus rien à leur apprendre. Que par exemple la Chine, qui nous dit en substance qu'il faut continuer à travailler, que la Chine est un empire de fourmis jaunes. Citation bien connue d'une femme politique d'il y a quelques années. On a l'impression que les Européens considèrent que les Américains qui leur disent « Attention, vous n'êtes pas à la fin de l'histoire, il y a encore des ennemis, il faut pouvoir négocier avec eux, il faut pouvoir éventuellement se défendre. » Eh bien, les Européens ont souvent la tendance à croire que ces gens-là sont finalement des cow-boys et donc des gens pas intéressants. Envers le monde islamique, qui dit à l'Europe en substance « Vous savez, les enfants ne sont pas apportés par la cigogne, mais il faut les engendrer ou les enfanter, et puis il faut les élever, il faut les éduquer. » Bien, nous appelons ces gens-là des fondamentalistes. Et dans les trois cas, nous nous sentons très malins. Nous nous sentons pleins de nous-mêmes. Je joue bien entendu sur cette notion de vacuité, de plénitude. Vous avez parlé tout à l'heure d'une crise de foi. Je suis un amateur incorrigible de calembours, et je me permettrai de parler d'une crise de foi, F-O-I-E, c'est-à-dire d'une certaine dyspepsie due à une plénitude excessive. Si nous sommes pleins de nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir aller chercher ce qui pourrait peut-être nous faire du bien.
Alors, sur cette question de la transmission, depuis donc la voie romaine, 1992, vous nous expliquez qu'il y a un mode particulier de la transmission culturelle en Europe, qui est cette idée de venir après. Et donc, vous expliquez qu'effectivement, les Romains ont imité les Grecs, les ont admirés et les ont incorporés avec le sentiment, effectivement, de venir après eux. Eux qui étaient ce classicisme à imiter, pour reprendre une de vos expressions, et idem pour les chrétiens à l'égard des juifs. Alors, est-ce que cette position-là, c'est-à-dire cette attitude européenne, cette mode, cette modalité de transmission culturelle, d'incorporation culturelle, est terminée ? Ou est-ce que, d'une certaine façon, nous n'avons pas complètement pris conscience, eu égard sans doute à la crise de foi et de foi dont vous parliez, qu'effectivement, il y avait une modalité particulière et que peut-être le premier devoir ou la première prise de conscience à avoir serait de reprendre conscience de ce que vous indiquez donc depuis l'Europe, la voie romaine, c'est-à-dire cette modalité particulière d'incorporation, d'appropriation de la culture des autres.
C'est une idée pour laquelle j'ai été obligé de forger plusieurs concepts, peut-être pas très élégamment formulé, mais qui, moi, en tout cas, m'aide à comprendre les choses. J'ai d'abord risqué l'idée suivant laquelle l'Europe se caractérise par une secondarité. Bon, je ne suis pas content du mot, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur. C'est l'idée suivant laquelle nous venons après. L'Europe n'est pas une origine. L'Europe n'est pas ce que l'on appelle, dans une formule un peu éculée, la vieille Europe. L'Europe est au contraire quelque chose d'assez récent, voire de très récent. Comparé par exemple à l'Égypte ancienne, dont on peut dater le commencement avec le commencement de l'histoire même, que l'on définit par l'invention de l'écriture. Donc vous avez là 3 millénaires d'histoire avant le Christ. Et cette histoire s'est poursuivie jusqu'au christianisme, puis jusqu'à l'islam. Donc en gros, jusque vers le 3e, 4e siècle de notre ère pour le christianisme, enfin au moment où le christianisme prend vraiment le pouvoir, pourrait-on dire, et en ce qui concerne l'islam, jusqu'au 7e, 8e siècle. Donc vous avez près de, disons, 3 millénaires et demi d'histoire. À côté de cela, l'Europe a pris conscience de former une unité culturelle et pas seulement une direction géographique ou une partie du monde qui ne se distingue des autres que par des critères tout à fait contingents. Elle a pris conscience d'elle-même, disais-je, en gros, à partir de la tentative de Charlemagne de créer un empire d'Occident qui serait une sorte de singe du seul empire romain véritablement légitime, c'est-à-dire l'empire romano-byzantin. Donc nous avons tout au plus 12 siècles d'histoire. Qu'est-ce que c'est que 12 siècles par rapport à ces 30 siècles ? 35 siècles d'histoire égyptienne, c'est quand même, d'une certaine manière, un petit détail. Bon, il se trouve que nous vivons à l'intérieur de ce détail, donc il nous intéresse. Alors, ce qui s'est passé sur le fond de cette secondarité, donc sur le fond de ce sentiment d'avoir à puiser plus haut que soi, en culture chez les Grecs, en religion chez Israël, eh bien, c'est un rapport justement à cette tradition pour lequel j'ai utilisé un mot qui existait déjà dans le lexique du français, mais avec un autre sens, c'est le mot d'inclusion. Je distingue l'inclusion et la digestion. La digestion consiste, la digestion est un processus tout à fait naturel, tout à fait biologique, que nous connaissons tous, enfin, heureusement que nous le connaissons, sans quoi nous ne serions plus de ce monde, un processus qui consiste à prendre du dehors et à le transformer en du dedans, en lui faisant perdre son altérité. Le pain que nous mangeons cesse d'être du pain pour devenir notre chair. En revanche, l'inclusion est quelque chose d'assez artificiel, et même de très artificiel. Pour moi, je pense toujours, quand j'emploie ce mot, à ces petits hippocampes noyés dans le plastique transparent que j'admirais dans les stations balnéaires quand j'étais gosse. Et ça s'appelle une inclusion, justement. Enfin, c'est le mot par lequel le marchand de ce genre de souvenirs les désigne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une inclusion ? Vous avez un élément étranger qui est fixé dans une substance transparente, donc on peut bien le voir, on peut peut-être plus facilement l'observer que in vivo. Enfin, l'hippocampe dans son morceau de plastique est plus facile à tourner sous tous les angles et à examiner de près que lorsqu'on le regarde sur une plage dans l'eau. Il est fixé dans son altérité. Donc il est à l'intérieur de quelque chose, mais il ne perd pas sa différence. Mais il reste lui-même. Il ne se dissout pas dans le plastique. S'il s'y dissolvait, il deviendrait absolument invisible. On aurait une sorte de masse opaque. On n'y verrait plus rien. Alors il se trouve que cette façon de voir permet d'avoir, disons, une image, en tout cas, une image assez parlante de la façon dont la culture européenne s'est comportée par rapport, mettons, aux textes grecs ou aux textes hébraïques de l'Ancien Testament. À savoir, l'Europe n'a pas essayé d'assimiler le contenu pour jeter la coquille. Elle a gardé les deux. Elle a gardé la lettre de la littérature grecque, au lieu simplement de la traduire et puis ensuite de jeter les manuscrits originaux. Elle a gardé la lettre de la Bible hébraïque sans se contenter de la traduire. Saint Jérôme a traduit la Bible directement à partir de l'hébreu. Bon, c'est ce qui était très très bien. Mais enfin, l'hébreu a été conservé et continue à susciter l'intérêt des savants et des théologiens. Alors cette attitude est assez curieuse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas naturel de procéder ainsi. Ce qui serait naturel, ça serait d'absorber le contenu, de boire le contenu, et puis de jeter ensuite l'écorce comme on presse une orange.
Parce que vous dites qu'il y a une spécificité donc de la digestion européenne, c'est-à-dire qu'effectivement, ou de l'appropriation européenne, qui est effectivement cette inclusion, contrairement, pour reprendre ce que vous dites, à l'islam, qui aurait, elle, une culture de la digestion.
En effet, c'est quelque chose qui m'a frappé. Je ne suis pas islamologue, mais je me suis un petit peu occupé de choses arabes, puisque j'ai enseigné 20 ans la philosophie de langue arabe à Paris 1. Je remarque que les Arabes ont beaucoup traduit. Au IXe siècle en particulier, il y a eu une immense vague de traductions à partir du grec, éventuellement en passant par l'intermédiaire syriaque vers l'arabe. Immense vague qui a mis à la disposition des savants, des curieux, pourrait-on dire, de langue arabe, quel que soit leur peuple d'origine et quelle que soit leur affiliation religieuse, cette vague a mis à la disposition de ces gens à peu près tout ce qui était présent sur le marché de la culture grecque. Tout le savoir grec y est passé. Mathématiques, astronomie, médecine, et chers philosophes, bien entendu. Ce qui n'est pas entré, en revanche, c'est, la littérature. Les Arabes n'ont pas connu les historiens grecs, ils n'ont pas connu Homère, ils n'ont pas connu les tragiques, ils n'ont pas connu les lyriques. Bon. Mais tout ce qui est, savoir est passé en arabe. Et non seulement y est passé, mais y a connu une sorte de floraison. Les Arabes ne se sont pas contentés de recevoir passivement, mais ils ont développé, ils ont même critiqué sur la base d'un savoir plus précis et plus large. Et ils s'en sont rendus compte que les Grecs n'avaient pas tout dit, qu'il fallait aller plus loin. Bon. Mais les textes grecs n'ont pas survécu. Alors, je ne pense pas qu'il faille penser à des destructions volontaires, mais simplement un manque d'intérêt, puisque les textes étaient traduits, on n'avait plus besoin de regarder l'original. Il s'est passé quelque chose d'assez proche en ce qui concerne le rapport aux écritures précédentes. Je rappelle que c'est un dogme islamique tout à fait central, que ce que nous appelons l'Ancien Testament et ce que nous appelons le Nouveau Testament sont des textes inauthentiques qui auraient été trafiqués, falsifiés par leurs porteurs juifs, puis par leurs porteurs chrétiens. De telle sorte que le contenu authentique des révélations antérieures ne peut se trouver sous sa forme non corrompue que dans le Coran. Et donc on a un petit peu le même processus, on prend le contenu, alors on peut dire, c'est peut-être pas tout à fait le même contenu, mais peu importe, même si c'était le même contenu, sans aucune distorsion ni différence, il aurait été tellement approprié que la source serait devenue, pour dire le moins inutile, pour dire le plus dangereuse, puisque falsifiée. Donc on a aussi bien en culture profane que dans la culture religieuse un même mouvement de digestion. On assimile le contenu et on se dispense du contenant. Ce qui ne serait pas gênant si un tel rejet ne rendait impossible le retour à la lettre de ce qui a été transmis. En Europe, on assiste à une quantité quasiment ininterrompue de retour à la lettre. Alors aussi bien de retour à la lettre de la Bible, dont on essaye de faire des éditions toujours plus précises, que de retour à la lettre hellénique, dont on essaye de comprendre le message de manière de plus en plus précise, etc. En un mot, en Europe, on critique une réception par une réception postérieure. Une réception postérieure se retourne toujours sur la réception antérieure et dit « là, il y a des choses que vous avez manquées, des choses que vous avez mal comprises, il y a des choses qui devraient être approfondies, etc. » On entre ainsi dans une dialectique ininterrompue de retour et de ce que j'appelle des renaissances.
Mais est-ce que justement, sur cet avantage particulier, cette posture particulière de l'inclusion européenne, est-ce que les renaissances dont vous parlez ne sont-elles pas une forme de défense de la culture contre quelque chose qui serait passé donc de l'inclusion à la digestion? Vous faites dans vos livres une différence très forte entre deux modes de transmission, qui est la périphrase et le commentaire. La périphrase, c'est effectivement de recopier, donc de dire la même chose, et le commentaire, d'assimiler. donc de digérer. Est-ce que les phases successives de renaissance, donc de retour à la lettre, au texte avant, ne sont pas une manière de défendre, de se défendre contre ces commentaires qui, d'une façon ou d'une autre, viennent phagocyter le texte d'origine et donc une reprise de distance par rapport à ces commentaires qui alourdissent et qui, pour reprendre ce que vous disiez, pèsent sur le foie, une crise de foie, une crise de foie de la digestion qui, effectivement, serait quelque chose...
Je me permets de corriger un tout petit lapsus. Je parle de paraphrase et pas de périphrase. La paraphrase consiste à réécrire un texte précédent dans son propre vocabulaire, éventuellement en changeant quelques petites choses pour les rendre plus compréhensibles. Le commentaire, lui, garde le texte original et l'entoure. Même parfois matériellement parlant, que l'on pense à certaines bibles rabbiniques dans lesquelles deux versets de la Torah sont entourés d'une foison de commentaires dus à divers auteurs et de diverses époques. Les éditions du Talmud sont dans la même ligne. À part ce petit lapsus, vous avez parfaitement, je crois, résumé ce que je pense. Effectivement, la méthode du commentaire qui maintient le texte original dans sa singularité, qui essaye bien entendu de l'éclairer de différentes façons, mais a ce mérite de construire autour de ce texte une coque protectrice qui en empêche la dissolution. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que cette activité de commentaire est d'origine religieuse. Ce sont d'abord les textes sacrés que l'on entoure au propre comme au figuré, enfin au propre de commentaires verbaux et au figuré d'un respect qui les rend intouchables. Il est intéressant de voir comment cette méthode a été appliquée ensuite à des textes tout à fait profanes. Alors les textes grecs et latins, bien entendu, et puis à partir d'une certaine époque, certains textes quasiment contemporains. Par exemple, que l'on pense à la manière dont la Divine Comédie a été, moins d'un siècle après sa composition, l'objet de commentaires. Commenter un texte, cela veut dire que l'on élève le texte en question à la dignité de ce que l'on appelle, pour reprendre un concept tout à fait fondamental, un classique. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut avoir lu, quelque chose dont on peut considérer que l'ignorer est coupable.
Alors nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc juste après notre entretien avec Rémi Brague. Donc nous reprenons notre entretien avec Rémi Brague autour de la question de la transmission, transmission culturelle. Donc nous avons vu dans une première partie, effectivement, quelle était la particularité de l'inclusion européenne comme mode de transmission culturelle. Alors je voudrais que vous nous éclairiez dans cette deuxième partie sur un point compliqué qui est celui des modalités historiques de la transmission. Pour nous, c'est simple, il suffit d'aller dans cette bibliothèque, les auteurs grecs sont là, pour autant qu'on les lise, les auteurs romains sont là, pour autant qu'on les lise. Donc, on peut imaginer que, effectivement, tout ça nous a été donné par les Grecs et par les Romains qui nous ont transmis ça simplement, comme vous le disiez, comme un sac de pommes de terre qu'on transmet comme ça de génération en génération. Or, pas du tout, dites-vous, et effectivement, je renvoie en particulier au moyen du Moyen-Âge et à d'autres de vos livres où vous expliquez un peu ce qu'il en est. Tout cela fait l'objet d'une transmission culturelle, de quelque chose qui a des transmetteurs, des écoles, des personnages, des individus qui ont traduit, transmis, perdu, et c'est passé par des voies et moyens différents. Alors, prenons le cas que vous connaissez particulièrement, comme d'autres, mais celui d'Aristote. Donc, comment est-ce que Aristote nous est, à nous, parvenu dans son intégralité, dans l'intégralité que nous connaissons ? Est-ce que ça s'est fait tout seul ou au contraire, c'est l'objet, et vous le dites dans un de vos textes, d'une histoire parfois tragique de cette transmission matérielle des textes.
Oui, je voudrais commencer par revenir sur ce que vous avez dit au début de votre question. Je dirais que nous sommes vraiment des enfants gâtés. nous pouvons nous procurer la totalité de l'héritage antique, disons pour une somme modique. Enfin, on peut avoir dans sa bibliothèque la totalité de la collection Oxford des textes classiques, disons pour le prix de je ne sais pas combien ça ferait, en tout cas infiniment moins cher qu'une voiture, par exemple. Vous pouvez avoir tout cela pour rien, enfin quasiment pour rien, grâce à M. Gutenberg. Bon, sans l'imprimerie, où serions-nous ? Eh bien, c'est justement là où l'on en était avant lui. Il fallait transmettre par un acte délibéré, par un travail qui prenait du temps et qui coûtait de l'argent. Il fallait payer le support matériel, il fallait acheter du papyrus ou du parchemin, il fallait payer le scribe, et il fallait écrire tout cela à la main. Ce qui veut dire qu'il n'y avait de transmission que s'il y avait une sorte de politique, si vous voulez. C'était parfois d'ailleurs un acte politique. Je pense à un texte de Thémistius, par exemple, qui raconte comment, à un certain moment, l'empereur a décidé de faire recopier un certain nombre de textes de la littérature grecque de son époque. Il serait intéressant de savoir quels étaient les critères de choix. Pourquoi a-t-on recopié tel texte alors que d'autres étaient considérés comme pouvant sombrer dans l'oubli ? Donc, cet héritage dont vous avez parlé n'est pas quelque chose que nous recevons, mais c'est quelque chose qui a été pris et qui a été pris par des gens que l'on peut parfois nommer. Dans mon petit livre sur l'Europe, je parle par exemple de ce commentateur grec néoplatonicien du début du VIe siècle, Simplicius, qui, dans son commentaire à la physique d'Aristote, nous dit Aristote parle de et critique un philosophe qui s'appelait Parménide, le livre est devenu rare, donc je vais en recopier de larges passages. Eh bien, sans Simplicius, nous n'aurions pas de très larges fragments de Parménide. En gros, sans Simplicius, nous aurions conservé, disons, le début du poème, qui nous est conservé par Sextus Empiricus, si ma mémoire est bonne. Début du poème qui est une introduction plutôt rhétorique, pleine d'images, et qui ne contient pas encore de raisonnement du poème. Le poème nous serait incompréhensible. Et même ce prologue, qui suppose 1000 allusions à la doctrine qui va être exposée plus loin, serait resté quasiment lettre morte. Donc nous avons certains cas dans lesquels on peut dire, si nous possédons les œuvres de tel penseur, nous le devons à un personnage bien précis. Même chose pour Épicure. Que connaîtrions-nous d'Épicure si Diogène Laërce n'avait eu la bonne idée de recopier dans une sorte d'histoire de la philosophie, enfin d'histoire un peu anecdotique de la philosophie, trois courts traités de celui qu'il admirait plus que tout parmi les philosophes. Sans Diogène Laërce, nous posséderions le recueil de sentences conservé dans un manuscrit du Vatican, quelques allusions faites par d'autres auteurs grecs et latins, et puis c'est tout. Nous n'aurions pas la lettre, et les lettres, si j'ose jouer sur les mots, d'Épicure. Alors, il faudrait évoquer ici des figures presque tragiques. Tenez, Boès. Boès, ça c'est vraiment une histoire tragique, puisque nous connaissons de lui avant tout un livre qu'il a écrit en prison alors qu'il attendait son jugement, et ce jugement a été négatif, il a été exécuté. Donc c'est vraiment un testament. Eh bien, Boès avait l'intention de traduire et de commenter l'ensemble de l'œuvre de Platon et d'Aristote. Bon, vaste programme, une tâche immense, qui n'a pu mener à bien précisément à cause de son exécution. Sans lui, nous n'aurions pas grand-chose de Platon et d'Aristote. S'il avait survécu, l'Occident, ce que nous appelons maintenant l'Europe, aurait pu bénéficier de la présence de l'œuvre de Platon et de la présence de l'œuvre d'Aristote, au lieu d'avoir à attendre, en ce qui concerne Aristote, jusqu'au XIIe siècle, où le reste, on possédait le début de l'œuvre logique d'Aristote. Mais c'est seulement au XIIe siècle et au XIIIe, début du XIIIe, que l'ensemble de l'œuvre d'Aristote a été traduit, d'abord en même temps, parallèlement, à partir du grec et à partir de traductions arabes, et puis ensuite les traductions à partir du grec, qui étaient évidemment plus fidèles, puisqu'elles n'étaient pas des traductions de traductions, mais des traductions directes, ont supplanté les traductions faites à partir de l'arabe. Quant à Platon, eh bien, si Boès n'avait pas été exécuté, nous aurions gagné en gros 1000 ans, puisque c'est seulement à la fin du XVe siècle que Marcel Ficin, à Florence, a mis en latin les dialogues de Platon. On connaissait le nom de Platon, mais on n'avait pas ses textes.
Donc Boès exécuté en 524.
524, par le roi Théodoric, qui était le souverain de l'Italie à l'époque. Et Théodoric l'avait soupçonné de faire les yeux doux à l'empereur, enfin le vrai empereur, il n'y avait pas d'autre à l'époque, l'empereur de Byzance, l'empereur de Constantinople, qui était à cette époque Justin, l'oncle du grand Justinien, mais qui avait déjà sans doute le projet de reconquérir militairement, ce que Bélisaire a fait ensuite, une bonne partie de l'Occident.
Donc vous dites qu'effectivement, il y a eu cet épisode tragique, mais quand on regarde l'histoire d'Aristote, donc quel a été le rôle avant donc Boès de ces écoles en Turquie, là je pense en particulier à l'école d'Édesse ou l'école de Nisib, pour transmettre ce patrimoine-là. Et puis effectivement, est-ce que cet héritage-là d'Aristote est passé, et ou comment, par les Arabes, pour rester dans une généralité que vous allez mieux nous préciser, nous qui sommes un peu ignorants de ces subtilités de...
Tout ceci est vrai, et il faut simplement replacer ça dans l'ordre chronologique. D'abord, pourquoi avons-nous conservé l'œuvre d'Aristote alors que nous avons perdu, par exemple, l'œuvre de Démocrite? Nous avons des catalogues de l'œuvre de Démocrite et il semble qu'elle ait été monumentale. Nous en avons quelques bribes minimes. Pourquoi n'avons-nous pas les œuvres des stoïciens, des premiers stoïciens? Ce que nous avons des stoïciens, ce sont des directeurs de conscience romains, comme Sénèque ou Marc Aurèle, qui était romain mais qui écrivait en grec. Nous n'avons pas les traités des fondateurs, Zénon, Cléante et Chrysippe. Nous les avons perdus. Alors pourquoi n'avons-nous pas perdu Aristote? Eh bien, la réponse, c'est que à la fin de l'Antiquité... Supposer que l'Antiquité ait eu une fin, enfin disons au 4e, 5e, 6e siècle de notre ère, les écoles philosophiques n'ont pas toutes survécu. La seule qui ait survécu, parce qu'elle était la seule qui soit capable de satisfaire les besoins intellectuels et spirituels de ses contemporains, c'était l'école néoplatonicienne. Enfin, que nous appelons, nous, néoplatoniciennes. Eux se considéraient comme des platoniciens purs et durs, pas du tout comme des néos. Eh bien, ces gens-là, bien entendu, avaient pour Platon un culte, même littéralement, enfin, on célébrait l'anniversaire de Platon, mais ils avaient besoin de manuels d'initiation à la philosophie. Les dialogues de Platon se prêtent assez mal à ce genre de... parce qu'ils n'enseignent pas, hein, ce ne sont pas des manuels. En revanche, l'élève le plus proche et le plus digne de Platon, à savoir Aristote, avait écrit un traité d'éthique, des traités de logique, un traité de métaphysique, enfin, des tas de choses qui pouvaient servir, un traité, disons, d'astronomie. Enfin, il avait produit à peu près tout ce qu'il fallait, en fait, de manuel. Donc, une certaine division du travail s'est installée. On commence par étudier logique, physique et éthique chez Aristote, et puis ensuite, lorsqu'on a atteint un niveau suffisant, on passe à Platon. Donc, les néoplatoniciens avaient besoin de l'œuvre d'Aristote, et c'est eux qui nous l'ont transmise. Ce qui s'est passé ensuite dans les écoles syriaques, vous avez parlé de l'école d'Édesse et de l'école de Nisib, eh bien, c'est la poursuite du système d'enseignement supérieur grec dans un cadre chrétien, et dans la langue qui était la langue de culture de tout le Moyen-Orient de l'époque, à savoir le syriaque. Le syriaque est une forme d'araméen. En fait, c'est l'araméen chrétien, si vous voulez, avec une écriture un peu particulière et quelques particularités de morphologie et de syntaxe. Donc ces écoles ont poursuivi la tradition de l'enseignement aristotélicien, en particulier de la logique, surtout de la logique, dans un cadre théologique, puisque la théologie chrétienne a besoin d'une conceptualité assez forte, et on empruntait cette conceptualité à la philosophie grecque. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que l'école de Nisib, alors Nisib c'est une ville qui se trouve actuellement à la frontière entre la Syrie et la Turquie, du côté turc. Cette école a été le modèle dont s'est inspiré très explicitement, enfin il le dit en toutes lettres, quelqu'un qui s'appelait Cassiodore. C'était un contemporain un petit peu plus jeune, si ma mémoire est bonne, de Boès. et qui, aux alentours de 555, la date est facile à retenir, a fondé un vivarium en Calabre, donc dans le sud, dans la pointe de la botte italienne, un couvent qui avait pour but de préserver la littérature chrétienne, mais aussi la littérature classique, dont la connaissance permettait la bonne compréhension des écritures chrétiennes, de la Bible et des textes des pères de l'Église. Cassiodore est aussi quelqu'un à qui on doit la survie d'une quantité de textes. Ce sont des actes volontaires. Hein. Il n'y a pas de réception passive, il n'y a pas de perfusion, si l'on peut dire, de la culture. Hein. Il faut se l'approprier par un acte volontaire. Alors, vous avez parlé d'une dette, aussi bien au début qu'à la fin. Pardon, excusez-moi, j'ai négligé une étape qui n'est pas négligeable du tout, qui est celle de l'intermédiaire arabe. J'ai dit tout à l'heure qu'au IXe siècle, les Arabes avaient traduit comme des fous, enfin, vraiment avec une intensité et un rythme assez extraordinaire, à peu près tout ce qui était disponible à l'époque du savoir grec. Eh bien, une partie...
Donc ça se passe où, ça ?
Alors, ça se passe essentiellement à Bagdad, hein, dans la capitale culturelle de l'empire des califes abbassides. Une bonne partie de ce qui avait été traduit en arabe, soit par l'intermédiaire du syriaque, soit directement à partir du grec, c'est assez compliqué, est passé à nouveau en latin. Alors, soit dans l'Espagne, dans la Castille franchement reconquise, à Tolède, soit en Sicile ou dans le sud de l'Italie, parce que bon, pour des raisons géographiques évidentes, ce sont des zones de contact. Donc ceci a été traduit en latin et n'a pas été sans exercer une influence considérable sur le développement du savoir européen lui-même.
Parce que ce que vous dites, c'est que dans ces éléments, il y a des accidents de l'histoire, si on veut, et donc des éléments qui sont liés aux conquêtes militaires. Et en particulier, donc, en 1085, la prise donc, de Tolède par les Castillans, donc les ancêtres des Espagnols, si je ne m'abuse, qui rend possible, effectivement, la traduction de l'arabe en latin de tout ce qui a été traduit par les Arabes.
L'histoire culturelle n'est pas un dîner de gala. Il y a aussi des aspects tout à fait concrets, des aspects militaires, voire parfois des aspects un peu sordides. Parfois, si l'on essaye de valoir un élément culturel, c'est aussi comme arme idéologique. Lorsque l'empereur Frédéric II, par exemple, donc à Palerme, a fait traduire certains textes à partir de l'arabe ou du grec, c'était aussi pour embêter le pape. Il est possible, un de mes amis a émis cette thèse, que la traduction latine du Guide des égarés de Maïmonide ait été suscitée, enfin, ou ait été favorisée en tout cas, par l'intention de jeter dans les roues de la scolastique chrétienne naissante, des idées pas très orthodoxes. Donc il ne faut pas s'imaginer tout cela comme se passant entre enfants de cœur. Je donne un exemple dans un de mes livres, c'est l'origine du fonds arabe de la bibliothèque de l'Escorial.
Un naufrage.
Voilà, exactement, un naufrage, mais un naufrage très concret. Hein. Le navire d'un libraire arabe, je ne sais pas d'où il était, qui s'échoue sur les côtes de l'Espagne, et puis le contenu est confisqué et porté à la bibliothèque de l'Escorial. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la présence arabe dans l'Espagne d'avant la conquista. C'est vraiment un accident au sens le plus concret, le plus plat du terme. L'histoire s'est aussi fait avec ces choses-là. Alors je reviens, excusez-moi, à l'idée de dette. J'ai moi-même employé cette expression, je n'en suis plus aussi fier. Tout simplement parce que une dette, c'est une image bien entendu, et c'est une image qui suppose que les denrées culturelles, si je puis dire, sont des choses. Si je vous dois de l'argent, ça veut dire que je vous dois une certaine somme. Vous m'avez, avancé le prix d'un espresso, et j'ai sur la conscience cette somme monstrueuse, n'est-ce pas, que je dois vous donner. C'est une chose, il faut que je vous donne, des pièces,
Et une contrepartie,
Une contrepartie,
Restituer.
Voilà, il faut restituer. Ça suppose donc que la culture, ce serait un ensemble de choses. Vous avez parlé de sacs de patates tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la transmission de la culture, c'est comme ça. Ben non, il n'y a pas de transmission sans appropriation. Et une appropriation, ben, c'est pas une chose, c'est une activité. Et c'est une activité qui a d'ailleurs cette propriété merveilleuse qu'elle ne s'épuise pas. Hein, si je vous enrichis par mon savoir, ou si vous m'enrichissez par le vôtre, ben, c'est un jeu dans lequel les deux gagnent. Je ne suis pas obligé de me débarrasser. L'argent que vous m'avez envoyé pour me payer mon espresso, ben, vous ne l'avez plus. L'information que je vous ai communiquée, en vous apprenant la date de la bataille de Marignan, par exemple, bon, ben, je la possède encore. C'est de la merveille des choses de l'esprit, c'est que...
Elles ne se perdent pas.
Oui, c'est ça. Elles n'appauvrissent pas celui qui en enrichit autrui. Mais pourrait-on penser au contraire.
Donc vous diriez quoi, là ? C'est pas une dette, parce que ça peut être une dette morale, enfin, ou une dette spirituelle, ou une dette culturelle, quelque chose. Enfin, le sentiment d'être redevable. Parce que, dans un autre texte, vous employez l'idée d'une piété. Que ce qui se perdrait, c'est effectivement ce sentiment de piété, c'est-à-dire de piété filiale, c'est-à-dire d'être alors, redevable ou d'être héritier ou d'être...
Oui, c'est une notion que j'ai mentionnée dans la préface que j'ai faite à la réédition d'un livre de Theodor Hecker, ce penseur allemand qui avait écrit dans les années 20 ou 30, si je ne me trompe. Non, 30 justement, puisque c'était une réponse au nazisme. Un livre sur Virgile, qui s'appelle Virgile, père de l'Occident. Ça a été réédité il y a quelques années chez un petit éditeur suisse. Et donc j'ai parlé de cette vertu fondamentale chez Aîné, qui est justement la vertu de celui qui sait non seulement porter son père sur les épaules, mais l'enterrer quand il faut, et qui sait transférer ce qu'il a apporté avec lui de Rome, pas seulement son papa, mais les dieux troyens, qui sait transférer tout cela à Rome. Enfin, c'est la légende virgilienne sur la fondation de Rome qui, historiquement, vaut ce qu'elle vaut, mais qui nous aiguille vers une reprise de conscience de ce sens de la piété, n'est-ce pas ? Qu'il faut non pas ployer sous le fardeau de nos ancêtres, qu'il faut savoir enterrer, effectivement, mais qui consiste à se savoir redevable de quelque chose. Nous ne sommes pas faits tout seuls, nous avons reçu, ou plus exactement, nous avons trouvé où prendre.
Eh bien, écoutez, Rémi Brague, merci beaucoup donc, pour cet entretien, pour ces différents éclaircissements. Donc, je renvoie nos auditeurs à vos différents livres, et en particulier donc, à Europe, la voie romaine, au moyen du Moyen-Âge, et puis effectivement à différents autres livres qui sont les vôtres. Je signale, parce que je le trouve particulièrement admirable, donc du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres, qui est effectivement sur cette différence entre les trois monothéismes, et je mets ça entre guillemets, parce qu'effectivement, vous ne reprenez pas ce terme-là à votre compte, et à tous vos autres livres qui nous permettent effectivement de mieux comprendre ce qu'il en est de cette transmission culturelle dans ces difficultés matérielles, ce que nous avons vu dans une deuxième partie, et puis dans cette nécessité première pour éviter d'aspirer, comme vous l'avez dit au début, d'aspirer, la nature et la culture ayant hors de vie, d'aspirer autre chose, et quelque chose peut-être de plus nocif à nos sphères européennes que ce que nous avons effectivement reçu des Grecs et des Romains. Rémi Brague, merci.
C'est moi qui vous remercie.